Les rapports Repond, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sixième épisode, le rapport diplomatique.
Le vent a tourné en Europe. Les Alliés ont débarqué en Sicile en 1943 et en juin 1944 sur les côtes normandes. Les troupes progressent, grappillant du territoire au pays de l'Axe. On se met à espérer une chute prochaine de la tyrannie nazie. En juillet 1944, une personnalité controversée vient prendre ses quartiers au Muguet, le pavillon de première classe de la maison de santé de Malévo. Elle y est placée par le Conseil fédéral, sous une identité secrète avec ses deux enfants. En Italie, la politique est le théâtre d'une tragédie digne d'un soap opéra. En juillet 1943, Mussolini est renversé par ses ministres, dont son beau-fils est ministre des Affaires étrangères, le comte Galeazzo Ciano. Le Duce est emprisonné dans une forteresse, puis, dans une opération spectaculaire ordonnée par Hitler, il est libéré par un commando d'une trentaine de parachutistes SS et rejoint Hitler en Allemagne. Quand le Duce retourne en Italie, il prend les commandes de la République de Salo, un état fantoche au nord de l'Italie. Les conspirationnistes sont arrêtés et présentés à un tribunal composé de fascistes et de nazis. Mussolini n'intervient pas dans le procès, malgré les supplications de sa fille Eda, qui franchit la frontière suisse le 9 janvier 1944, déguisée en paysanne. Elle emporte le journal de son mari, qui est fusillé dans le dos 2 jours plus tard. En avril 1945, Mussolini est fusillé avec sa maîtresse à quelques pas de la frontière suisse. Résumé, le père est fusillé, le mari est fusillé, la fille se cache quelque part en Suisse avec des documents secrets qu'elle veut livrer aux Américains.
Già prima della fucilazione del marito, avvenuta l'11 gennaio 1944, Edda fugge dalla clinica, la Ramiola di Parma, pernotta sotto falso nome nell'albergo
alla Madonnina di Cantello. Et de ce que je comprends, Edda, elle s'est enfuie d'une clinique, la Ramiola di Parma.
Irene Lunghi, médecin psychiatre.
Et elle va de village en village dans des auberges jusqu'à arriver le 9 janvier, clandestinement en Suisse. Elle arrive avec ses enfants et elle utilise des prénoms et des documents faux. Elle arrive à passer du coup la frontière à travers Stabio, que c'est une petite ville au sud du Tessin. Et à la douane, elle se présente d'abord comme duchesse d'Aoste. Mais après quelques heures d'attente, elle dit à un officier qu'elle s'appelle Edda Ciano et elle demande l'asile en Suisse et elle est donc logée dans un petit couvent des sœurs dominicaines de Nedjo.
À partir de la destitution de Mussolini en juillet 43,
Marc Pernoux, historien.
Il y a un certain nombre d'affrontements à l'intérieur du camp fasciste et même parmi les dirigeants, puisque Ciano, le ministre des Affaires étrangères de Mussolini et d'autres dirigeants fascistes avaient lâché Mussolini. Et donc, il y a une vengeance implacable de Mussolini une fois qu'il est libéré par les Allemands. Il y a un procès qui a lieu à Vérone et Ciano, l'ancien ministre des Affaires étrangères et donc le beau-fils de Mussolini, est condamné à mort et exécuté. Et donc sa femme, la fille de Mussolini, peut aller voir son mari qui lui confie ses mémoires dans lesquelles il affirme qu'il s'était opposé à l'entrée en guerre de l'Italie et que donc tout ce qui s'est passé est de la faute de Mussolini et des Allemands, mais pas de sa faute à lui. Elle essaye d'obtenir de Mussolini, mais aussi d'Hitler, que Il renonce à exécuter son mari. Bon, finalement, il est quand même exécuté. Mais elle, elle décide de se réfugier en Suisse pour sauver sa peau parce qu'elle redoute d'être exécutée comme son mari l'a été. Et elle est obsédée par l'idée de publier ce livre de son mari pour retracer sa carrière et puis ses oppositions qu'il aurait eues vis-à-vis de Mussolini, et notamment de l'entrée en guerre en 1940. Elle arrive, elle a une réputation, donc on sait que c'est la fille de Mussolini, on sait que c'est la veuve du ministre des Affaires étrangères, du régime fasciste, donc c'est une période où on doit aussi donner une image d'un pays qui n'est pas prêt à accueillir tous les réfugiés, parce qu'on considère qu'on est quand même dans une situation difficile et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, donc on préfère que les réfugiés soient le plus discrets possible. Donc, elle vient en Suisse sous un faux nom et puis elle est confinée d'abord dans un couvent avec un prêtre italien qui est censé la surveiller pour éviter qu'elle ait trop de contact avec les différentes personnes qui pourraient être intéressées à son destin et à ses activités. Petit à petit, il apparaît qu'elle est très déprimée par l'exécution de son mari, ensuite ce qui arrive à son père. Tout ça fait que finalement, il est décidé de l'interner à Malevo. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient sur elle et puis qui sont aussi publiées dans les journaux à ce moment-là. On dit « Ah oui, c'est une femme riche, c'est une femme débauchée, c'est une femme qui a de nombreux amants. » Donc, le Conseil fédéral ayant accepté qu'elle soit internée et qu'elle ne soit pas refoulée, il faut justifier vis-à-vis de la population le fait que non, ce n'est pas une personne débauchée, c'est une personne respectable qui est au contraire très déprimée et pour cela, on demande un rapport d'expertise au médecin.
Edda Ciano est née dans des conditions normales. Elle a été, dit-elle, une enfant délicate dont la santé a toujours été l'objet de préoccupations et de soins. Pour la fortifier, on lui fit subir un bon nombre de cures et de traitements. En fait, c'est une constitution asthénique nerveuse sur laquelle se sont greffés ultérieurement des troubles névropathiques dits de conversion, des phénomènes hypochondriaques, des troubles physiologiques dus à une mauvaise hygiène générale.
Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce rapport. J'ai trouvé qu'il était très bien écrit.
Joël Denion, médecin psychiatre.
J'ai trouvé qu'il arrivait à expliquer des choses qu'on n'arrive plus très bien à expliquer comme ça de nos jours. Et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de symptômes, de diagnostics, alors que finalement, c'était un récit. Il racontait ses observations, ce qu'il a vécu, il parlait beaucoup de ce qu'il a ressenti aussi par rapport à cette prise en charge. Il parlait de ses difficultés et de ses limites.
Il est certain qu'au point de vue psychiatrique, la famille Mussolini est héréditairement tarée. Mussolini lui-même a toujours été un grand nerveux, impulsif, émotif. Presque toute sa vie, il a souffert de symptômes nerveux hypochondriaques. Il était persuadé d'avoir un ulcère d'estomac et a consulté pour cela tous les médecins possibles d'Italie et d'Allemagne. Son autopsie n'a pas révélé de traces de cette affection. Capricieux au point de vue alimentaire, il se livrait aux régimes les plus fantaisistes et les imposait à sa famille. Faible et autoritaire à la fois, il avait, d'après les descriptions de sa fille, à certains égards, la mentalité et la déformation professionnelle du maître d'école primaire qui était son premier et vrai métier. Le maître d'école a toujours raison. Mussolini ha sempre ragione. Sa femme, Donna Racelle, n'est pas, et n'a jamais été, d'après les dires de sa fille, la femme effacée, patiente et soumise que veut la légende. Petite domestique de campagne, elle se développa rapidement en une robuste commère autoritaire, forte en gueule, à la maleste. Très violente et impulsive, elle essayait de mener tout son monde à la baguette et de tenir en ordre un ménage que l'incurable bohémianisme de son mari et de ses enfants compromettait constamment. Très jalouse, elle faisait de constantes et violentes scènes à son mari et à maintes reprises, le ménage Mussolini en arrivait au bout. C'est aussi une erreur de croire, dit Madame Ciano, que sa mère était en politique une femme effacée. Au contraire, elle essayait de se mêler de tout. Elle avait ses favoris et ses bêtes noires auxquelles elle faisait la vie dure. Elle menaçait, tempêtait. Les initiés redoutaient beaucoup son influence, paraît-il, car dans certaines questions, elle embêtait son mari jusqu'à ce que celui-ci cède de guerre lasse. Dans ses périodes d'excitation, elle ne parlait que de faire fusiller, déporter, etc. Si je donne ces détails sur Donna Rachele, c'est pour dire que la Confédération n'a peut-être pas été mal inspirée en hésitant à lui donner asile. Elle n'est en effet pas la victime innocente du régime, ni la femme parfaite et résignée que la légende en a fait, mais un élément brouillon, actif et impulsif qui a joué un rôle direct mais caché dans toute la vie de son mari.
Dans les dernières années de la guerre, la Suisse se retrouve sur l'échiquier européen dans une position délicate. Les Alliés lui reprochent sa trop grande proximité avec les forces de l'Axe qui la fournissent en matières premières. Dans ces conditions, la Suisse doit montrer patte blanche. Être le refuge de toute une élite fasciste n'est pas le signe à envoyer aux futurs vainqueurs. Les fuyards de la dernière heure tentent de minimiser leur rôle dans les affaires de l'État fasciste. Eda Ciano accable sa mère et joue l'ingénue. Mais le passé ne passe pas, il est lourd d'implications. Eda était la fille préférée du Duce et l'égérie du régime fasciste. Son union au comte Galeazzo Ciano ressemblait à un mariage princier. Près de 4000 convives. Toute l'aristocratie et la grande bourgeoisie romaine ont été réunies dans une luxueuse réception pour célébrer le rapprochement entre les fascistes, l'aristocratie et la maison de Savoie. Eda est une star. Elle fait la une des magazines comme une étoile de cinéma. Elle apparaît régulièrement dans les journaux, sur les affiches. Les films de propagande célèbrent son héroïsme comme volontaire de la Croix-Rouge italienne. Elle suscite l'admiration. En juillet 1939, elle est en couverture du Time Magazine. Le journal la gratifie du titre de Dame de l'Axe, qui prend les décisions diplomatiques. Hermann Göring, ministre de l'ère du Reich, prénomme sa fille Eda en son honneur. Bref, Eda semble une fille perdue à la recherche d'un futur possible, à défaut d'une gloire perdue.
Eda Ciano passe pour avoir joué dans le régime fasciste un rôle important et avoir exercé sur le cours des événements une influence déterminante en intriguant et usant de son pouvoir sur son père. La légende populaire fait d'elle un des instruments principaux des catastrophes où le fascisme a plongé l'Italie et le monde. Or, Eda Ciano nie absolument avoir joué un rôle en matière politique. Elle n'aurait eu, dans ce domaine, aucune influence sur son père, ni cherché à en avoir une.
Musik
Eda Tiano nie absolument avoir eu quoi que ce soit à faire dans les tractations qui aboutirent à la conclusion de l'axe. Elle n'aimait pas les Allemands et toutes ses sympathies étaient pour les Anglo-Saxons. Ne parlant presque pas l'allemand, elle n'avait eu avec les chefs nazis que des relations tout à fait superficielles. À part sa visite personnelle chez le Führer pour obtenir la libération de son mari, elle ne vit, dit-elle, Hitler que deux ou trois fois dans des dîners ou réceptions officielles. Elle avait une forte antipathie pour Ribbentrop, trouvait que Göring avait le genre et la mentalité primitive d'un gangster. Elle jugeait Himmler plutôt réservé, timide et aimable, et le seul qu'elle trouva sympathique était Goebbels, dont elle vit plusieurs fois la femme, charmante, dit-elle, et les enfants fort bien élevés. À son arrivée, Eda Tiano était plongée dans une sérieuse dépression morale et physique. Elle avait passablement maigri, ne dormait presque pas, sinon avec des médicaments, n'avait aucun appétit, était constamment plongée dans des pensées tristes, se faisait de violents reproches par rapport à son mari et son père. L'exécution de son mari, à laquelle elle se reprochait d'avoir contribué en le poussant à prendre parti contre son père, la tourmentait infiniment. Les sinistres détails de l'exécution, les dernières paroles de son mari, le souci d'accomplir ses dernières volontés, l'envie de le venger, la rancune contre les responsables de sa fin, le regret cuisant de sa perte, la préoccupaient sans cesse. Elle se faisait aussi de vifs reproches de ne pas avoir été pour lui ce qu'elle aurait dû être, la femme qu'il lui aurait fallu. Elle se demandait si elle l'avait rendu malheureux, si elle aurait dû agir autrement, avoir plus de patience, de compréhension. Mais le conflit psychique d'Eda Tiano s'occupait inconsciemment plus profondément encore de son père. Consciemment, elle lui vouait de la haine de l'avoir déçu une fois de plus, d'avoir fait exécuter son mari. Elle le méprisait, disait-elle, pour sa faiblesse, pour ne pas avoir osé prendre parti et déclarait qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Eda Tiano a deux manières totalement différentes d'abréagir ses émotions pénibles. Comme elle est hypersensible et hyperémotive, elle tombe facilement dans la dépression qu'elle redoute avec tout son cortège de symptômes physiques et psychiques. L'autre manière, c'est celle de fuir la réalité en s'étourdissant et en s'amusant. Comme beaucoup de femmes froides, Eda Tiano est incapable d'un attachement complet. Dans son insatisfaction profonde, elle est tentée de profiter de toutes les occasions de flirt qui se présentent à elle et qui lui sont offertes surtout par les hommes légers. C'est ainsi qu'à Malevo, Eda Tiano s'est laissé attirer par un nommé Butcher, un beau garçon peu intelligent, grand coureur de femmes, alcoolique et épileptique, ancien officier renvoyé de l'armée pour ses excès. Je dois avouer qu'il ne me serait jamais venu à l'esprit qu'Eda Tiano pût être tenté de flirter ou de se laisser faire la cour par un pareil individu. Quand je m'en aperçus, je tentai de l'empêcher de se compromettre bêtement avec lui. Mais elle demeura sourde à mes avertissements et à mes remontrances, prétendant ne faire aucun mal, ne pas enfreindre ses devoirs et ne trouver là qu'une diversion à ses soucis constants. Il fallut transférer ce garçon dans un pavillon de surveillance et pour finir, le déplacer dans un autre établissement. Mais le mal était fait, en ce sens qu'Eda Tiano, se montrant avec un garçon de douteuse réputation, allant avec lui quelquefois dans de petits cafés hors de la localité, était conforme à sa légende de débauché. En fait, il n'y aurait eu pas grand mal à cela si l'incognito de Madame Tiano avait pu être maintenu. Mais du moment où elle fut reconnue, l'intérêt public s'attacha au moindre de ses faits et gestes. Sans le vouloir et sans s'en apercevoir, elle attire l'attention, elle s'habille de manière excentrique et sans discrétion. Elle n'a nullement la tenue et la manière d'être qu'on pourrait attendre d'une femme qui fut si haut placée. Par exemple, elle descend à monter et découvre en chemin que ses souliers la blessent un peu. Elle les enlève, continue sa route pieds nus et va ainsi faire des emplettes. On peut apprécier ses manières comme un remarquable manque de snobisme et un parfait naturel. Mais les spectateurs trouvent en général qu'une veuve et une fille tragique doivent se comporter avec plus de dignité et non comme une écolière en vacances. Il me faut maintenant dire quelques mots du caractère de Madame Ciano en général. Avant tout, c'est une révoltée contre toute discipline et toute contrainte. L'éducation de sa mère, à grand renfort de gifles, d'interdictions, de critiques, de scènes, fait qu'on ne peut guère obtenir d'elle quelque chose par les défenses et les ordres. J'ai essayé, au cours d'un traitement psychologique, d'obtenir une amélioration du caractère et du comportement, de l'adapter à la réalité tout autre qui serait désormais la sienne. Au début, tout allait fort bien et il semblait que des progrès sensibles pourraient être obtenus. Mais Madame Ciano se lassa vite de cet effort, prétendant qu'elle ne tenait nullement à changer. En fait, cette femme, qui pendant plus de 20 ans n'a vu devant elle que des dos courbés, des flatteurs, des gens empressés à lui plaire, qui n'osaient jamais dire ouvertement ce qu'ils pouvaient penser, n'aime guère la vérité. Madame Ciano présente des troubles pathologiques du caractère et du comportement et un bon nombre de symptômes névropathiques caractéristiques. Il y a dans son état une part nettement héréditaire et le reste provient d'une éducation première, défectueuse et des circonstances exceptionnelles de son existence. Les alternances de dépression et d'euphorie qui ne sont pas liées seulement aux péripéties de sa vie sont en grande partie endogènes. Elles donnent à son comportement un aspect bizarre et indiscipliné qui la fait très mal juger. Quelle que soit l'acuité de son intelligence, elle paraît peu capable d'apprécier sainement la réalité et de s'y adapter de manière suffisante, du moins dans les conditions actuelles. Il faut convenir que dans un pareil cas, la tâche du médecin est extrêmement difficile, sinon impossible. S'il n'accorde pas à cette malade un minimum de liberté, il doit la voir dépérir et présenter des symptômes nerveux s'aggravant constamment. Et s'il accorde cette liberté, la malade a tendance à en abuser. Ce n'est pas que les libertés prises par Madame Ciano aient été sérieuses. Elles auraient passé inaperçues chez toute autre personne et de fait, nul ne les remarquait tant qu'on ignorait son identité. C'est du jour où elle fut connue que la légende recommença et alla en s'amplifiant. Car les racontars les plus invraisemblables naissent spontanément sous les pas de cette femme. Et c'est un chapitre intéressant de la suggestion collective que d'étudier ce qui, dans son attitude et dans son passé, lui fait cette réputation de vampire, de femme fatale et débauchée, de provocatrice de la guerre, de destructrice de son pays. Mais si elle ne veut pas jouer ce rôle qu'on lui prête, qu'on veut lui imposer, elle veut, dit-elle, demeurer elle-même et ne pas se solidariser avec des événements où elle n'eut, dit-elle, aucune part. C'est probablement de la discrépance entre ce qu'est réellement cette femme, une grande nerveuse instable, impulsive, hypersensible, sans contact profond avec la réalité, et ce que la moyenne des gens attendent d'elle que naît la légende. Elle devait jouer un rôle tragique, or elle n'a aucun goût pour la représentation et se comporte comme une collégienne en rupture de banc. Il y a dans tout cela une persistance très nette d'infantilisme affectif et instinctif, une insuffisante maturation de caractère, une incapacité très nette d'apprendre par l'expérience, une tendance pathologique à toujours commettre les mêmes erreurs de conduite et de jugement. Tous ces symptômes sont absolument caractéristiques et se retrouvent régulièrement dans cette catégorie de malades nerveux qu'on appelle encore communément les psychopathes constitutionnels. Ce sont des malades difficiles à soigner, surtout lorsqu'ils n'apportent guère de bonne volonté au traitement, ce qui est le cas chez Eda Ciano.
On est là dans la période de la fin de la guerre, qui est une période aussi compliquée parce qu'on ne sait pas comment va se passer l'après-guerre. Après 1918, il y a eu la grève générale, il y a eu des tensions internes très fortes en Suisse. Et puis, à ce moment-là, en 1945, il y a des pressions alliées sur la Suisse très importantes. Dans les journaux anglo-saxons, la Suisse est présentée comme un pays qui s'est enrichi pendant la guerre. Ça crée une situation pour la population suisse qui dit « Ah, mais nous, on ne s'est pas vraiment enrichi. Nous, on n'a pas pillé de l'or dans les banques. On n'a pas volé des objets d'art. » Toutes ces accusations contre la Suisse inquiètent la population. Et dans cette situation d'inquiétude, elle se demande, oui, mais alors pourquoi le Conseil fédéral accorde l'asile à cette dame qui, elle, a bénéficié d'une situation très confortable alors que nous, on était dans une situation de restriction, de rationnement, de contrôle de la presse. C'est trop facile pour cette dame de bénéficier ainsi de l'asile en Suisse.
Pour terminer, je crois nécessaire de dire quelques mots à propos de l'attitude que je me suis vu obligé de prendre par rapport à Madame Ciano et des libertés que je lui ai accordées. Madame Eda Ciano n'a joui dans mon établissement d'aucun privilège et d'aucun avantage qui aurait été refusé à d'autres malades. Elle avait le même régime alimentaire et le même logement que les autres pensionnaires, et en particulier que les réfugiés juifs ou italiens venant des camps d'accueil qui devaient être soignés pour des troubles nerveux quelconques. Ce n'est pas le rôle du médecin que d'agir contre son devoir professionnel et contre ce qu'il estime nécessaire au bien-être de son malade. Toutefois, dans de pareils cas, la grosse difficulté consiste en ce que le médecin ne peut s'appuyer sur aucun élément fixe et certain. Il ne peut pas faire confiance au malade instable qui ne suit que ses impulsions. Il est toutefois obligé d'accorder à ce malade une confiance qu'il n'éprouve guère. D'autre part, l'opinion publique exige des sanctions, des punitions qui vont à fin contraire du traitement psychologique. Un compromis entre ces tendances opposées est difficile à trouver et, dans le cas d'Eda Ciano, presque impossible. Il faut en effet la traiter comme une prisonnière politique. Or, elle affirme n'avoir jamais fait de politique et n'être responsable en rien du mouvement fasciste de la guerre. Elle n'est pas non plus responsable de ses attaches familiales et prétend ne pas vouloir qu'on l'en accable, d'autant plus qu'elle a toujours essayé de s'en dégager. L'opinion publique voit en elle un des principaux exposants du régime et la rend donc responsable de tendances et de faits dont elle se dit et se sent innocente. On comprend donc psychologiquement sa révolte, bien qu'elle ait bénéficié pendant de longues années de la haute situation que le régime fasciste lui avait automatiquement conférée ou prêtée. Le rôle du médecin dans un pareil conflit est tout particulièrement difficile, sinon même impossible. Aussi, si les autorités fédérales me retirent la confiance qu'elles avaient bien voulu me témoigner pour le traitement de Mme Eda Ciano, je serais parfaitement heureux d'être débarrassé de cette responsabilité et de ces constants ennuis.
André Repon remet son rapport aux autorités fédérales au printemps 1945. Quelques semaines plus tard, Eda Ciano est reconduite à la frontière tessinoise par la police suisse pour être livrée aux autorités militaires américaines dans la nuit du 29 au 30 août 1945. Elle est condamnée à 2 ans d'emprisonnement sur l'île de Lipari. Elle n'en purgera qu'une grâce à l'armistice décrété par Palmiro Togliatti. Eda Ciano vivra encore un demi-siècle. Elle décède en 1995, à l'âge de 85 ans. Dans ses mémoires, elle écrit qu'André Repon l'a sauvée du désespoir.
Les rapports Repon, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, une série de podcasts documentaires de Gabriel Binder et Gérald Wang, avec Jean-Luc Borja dans le rôle d'André Repon. Voix off, Milou Beng. Piano, Daniel Hernandez. Réalisation, prise de son, montage et mixage, Gérald Wang. Une production Pavillon Nomade Malévo Quartier Culturel avec le soutien de la Fondation Philanthropique de Famille Sandeau.